This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Turquie et en Inde, deux pays à la une d'ailleurs dans le monde avec Olivier Poujade. La revue de presse des correspondants d'Inter, rendez-vous du jeudi, passe cette semaine par Moscou et Rome avec Claude Briot et Mathilde Imberti. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger consacré ce soir à l'intense vie politique sur le rocher de Gibraltar. Mais tout de suite, les circuits de la finance mondiale.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Notre invité ce soir fut banquier et présida l'autorité des services financiers britanniques pendant 5 ans. Il prit ses fonctions, nous dit la légende, mais c'est aussi la vérité, en 2008, 4 jours exactement après la faillite de Lehman Brothers, c'est-à-dire au moment où un typhon allait dévaster l'économie mondiale. J'ai le plaisir donc d'accueillir au micro de France Inter Lord Adair Turner. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir. La traduction simultanée de vos propos sera assurée par Michel Zlotowski, que je salue également. Le titre de votre livre aux éditions de l'Atelier, Reprendre le contrôle de la dette. Un mot, si vous le permettez, de votre arrivée en 2008, donc dans cette instance britannique. Est-ce que ça a été, quand vous vous en souvenez, 2008, 4 jours après Lehman Brothers, la panique absolue pour vous?
I'm not sure it was absolute panic, but we were very clear.
Je suis pas certain que ce soit la panique absolue, mais c'est très clair qu'il y avait quelque chose d'énorme qui se produisait dans le monde de la finance. De façon intéressante, jusqu'à 3-4 semaines auparavant, beaucoup de gens pensaient que le moment de danger maximum était dépassé et que les perturbations de l'année précédente s'était calmé. Mais avec Lehman Brothers et la semaine d'après, il est devenu clair qu'il y avait quelque chose d'extrêmement important qui se produisait sur quelque chose de très technique, le marché monétaire. C'est le monde, le marché où les banques se prêtent les unes aux autres. Et elles se refusaient des prêts. C'est la raison pour laquelle la banque centrale devait en prêter de plus en plus d'argent aux banques. Et c'était quelque chose, un système extrêmement compliqué qui se figeait sous nos yeux. Et c'était ces 4 semaines, 3 semaines après le 20 septembre, quand j'ai rejoint l'autorité de régulation, qui était la période de danger maximum, où les banques centrales, les régulateurs, les trésoriers du monde entier ont dû mettre des réactions énormes face à cette crise. Et c'est là où la panique a commencé à se terminer.
Souvent, quand on est le nez sur un événement, on ne parvient pas à comprendre, ni même à penser ce qui se passe. Est-ce que vous avez connu ce type de réaction? Vous dites, mais qu'est-ce qui est en train de se passer?
Je ne m'étais pas rendu compte que ça allait se produire, mais très rapidement, j'ai commencé à comprendre certaines des analogies historiques. 2 ou 3 jours plus tard, après que la crise commence à se développer, Mervyn King, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, j'ai dîné avec lui, il a dit, la dernière fois que ça s'est produit au Royaume-Uni, c'était le 1er août 1940, que la guerre mondiale a éclaté. Et tous commençaient à regarder, à lire les bouquins d'histoire, ce qui s'était passé en 1929, lors des crises précédentes. Et nous avions une compréhension de cela. En particulier, et c'est important, nous savions qu'il ne fallait pas refaire les erreurs de 1929. Il y avait beaucoup de ressemblances entre ce qui a mené à la crise de 1929 et en 1929 et dans les années qui ont suivi, il y a eu une série de réactions qui l'ont aggravé, cette crise, et qui ont produit la Grande Dépression, puis la montée politique du fascisme, du nazisme. Il était extrêmement important de tirer les leçons de l'histoire et de savoir ce qu'il ne fallait pas faire. Et dans ces circonstances-là, on ne peut pas dire simplement « Oh, ben, que les banques s'écroulent parce que c'est de leur faute ». Si vous le faites, ben, vous sentirez peut-être un bon sentiment que vous avez puni les gens parce qu'ils étaient idiots, mais vous vous punissez vous encore plus fort. Donc, on était très au fait des leçons de l'histoire. histoire, qui nous disait quelque chose sur ce qu'il fallait faire, et c'est ce qu'il ne fallait pas faire.
Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé de notre côté de la crise. Nous, citoyens, profanes, avons découvert un monde absolument ahurissant, une ingéniosité financière totalement délirante, coupée du réel, un état d'esprit aussi dans les salles de marché, et beaucoup ont éprouvé à la fois de la sidération et de la colère. Je ne pense pas que la colère soit retombée. Et vous ?
Well, I think there is a lot of anger, and there was in 2008.
Je crois qu'il y a beaucoup de colère. Il y en avait déjà en 2008. Le sentiment était qu'un groupe de personnes qui avaient dit qu'elles étaient très intelligentes et qui ont payé beaucoup d'argent pour faire des opérations extrêmement compliquées dans les salles de trading ont créé quelque chose qui apparaissait comme des instruments très véritablement malins, comme des CDO, des crédits swap et tout cela, et qui rendait prétendument le système financier plus efficace. Et la colère est venue parce qu'ils avaient tort. Et l'histoire que l'on racontait, que la complexité du système financier le rendrait plus sûr, c'est ce qui avait été dit avant 2008. Ben, c'était faux. Et au cœur de cela, il y avait des erreurs intellectuelles profondes, faites non seulement par les participants du système financier lui-même, mais aussi par beaucoup d'économistes, des gens qui avaient remporté le prix Nobel en économie, qui avaient produit des analyses économiques. Pourquoi est-ce qu'un monde financier plus complexe serait un système plus stable? Donc, il y a un degré légitime de colère.
Discipline of economics, which I think failed.
En fait, c'est l'économie qui a échoué. Et la science économique a échoué. Et la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre, Reprendre le contrôle de la dette, c'est de revenir à qu'est-ce que où nous sommes-nous trompés intellectuellement et quelques erreurs tactiques. Parce qu'il y avait des erreurs tactiques, mais plus fondamentalement, il y avait des choses que nous avons crues au sein du système et nous n'aurions pas dû y croire.
Alors, quelle est l'erreur théorique majeure ou la croyance fondamentalement fausse, d'après vous, aujourd'hui ?
Je dirais qu'il y en a deux erreurs fondamentales dans les années qui ont précédé 2008. La première, c'est l'erreur de croire que les êtres humains sont totalement rationnels et que le marché financier peut être rendu totalement efficace. C'est du non-sens. Les marchés financiers sont soumis à des effets de l'émotion aussi. Un effet peut produire un autre effet totalement détaché de la réalité économique. Et ça, c'est une erreur. L'autre chose qui était une erreur aussi, c'était que les économistes et les politiciens n'ont pas fait suffisamment attention à la montée de la dette. En 1950, dans toutes les économies de l'Occident, le rapport entre la dette et le PIB dans tous les pays économiques avancés, c'était 50%. En 2007, c'était 170%. Et pour toutes sortes de raisons, les économistes se sont persuadés que ce n'était pas un problème. Mais c'était un problème. Et ce qui était important de se rendre compte, c'est que les banques sont des institutions qui peuvent créer du crédit et de l'argent et du pouvoir d'achat. Et si vous les laissez faire, elles peuvent produire trop de cet argent pour le crédit et le pouvoir d'achat. Elles peuvent l'allouer à des choses qui ne sont pas saines dans l'économie, plutôt que de faire des bons investissements. C'est une réalité qui était niée par beaucoup de théoriciens de l'économie avant 2008.
Une partie de la dette, depuis cette crise, a été liée au sauvetage du système bancaire. Oui. Et aujourd'hui, je parlais des citoyens tout à l'heure, quand on fait le procès de la dette, on donne le sentiment que les gens vivraient au-dessus de leurs moyens, etc., etc. Mais dans la suite de la crise financière, il y a eu une énorme crise des dettes publiques que les citoyens payent pour finir. Donc, est-ce vraiment la dette le sujet ? On est bien content d'avoir pu en faire de la dette pour sauver l'ensemble du système.
Je crois qu'il faut faire la distinction entre différentes catégories de dette. Dans la plupart des pays avant 2008, pas en Grèce ou en Italie, mais dans la plupart des autres pays, le problème était la dette privée, pas la dette publique. C'était une explosion de dette privée, par exemple sur l'immobilier. Et cette explosion de la dette a produit des augmentations des actifs, des prix des actifs, et ça a produit produit ensuite une crise. Une fois que cette crise est arrivée, et la dette est passée du secteur privé au secteur public. Et la plupart des accroissements de dette publique se sont produits après 2008. Ça s'est produit non pas parce que les politiciens avaient pris des décisions irresponsables, mais parce que l'économie est passée en récession, en partie par le sauvetage des banques. Mais quand on regarde les chiffres, c'était un petit montant. Le grand montant, les gros montants, c'est qu'il y avait trop de dette privée. Cela a fait que les entreprises et que les maisons voulaient réduire la dette. Ils ont arrêté les investissements, arrêté la consommation. Il y a eu une récession. Les impôts ont diminué, c'est-à-dire l'assiette des impôts a diminué. Le chômage a augmenté. Et ça a produit un déficit qui a produit la dette publique. Donc la dette privée est montée comme un produit et une réaction sur la trop grande création de dette privée avant 2008.
Merci les traders, hein. Merci beaucoup.
Merci. Merci
beaucoup. Non, mais merci, merci.
Oui,
ouais, merci. Hein. On s'amuse à inventer s'amuse à inventer des instruments financiers.
Yeah.
Et derrière, il y a un tsunami qui emporte une partie de l'économie et derrière les finances publiques. Ouais. Merci les traders.
En partie les traders, en partie les banques classiques aussi. Beaucoup, ce n'était pas des activités de trading, c'était des banques qui ont prêté trop d'argent. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'il y a eu une explosion, en plus de trop de dettes en général. Nous avons créé un système où il y avait trop de complexité et trop de trading. La théorie, c'est que si vous preniez la dette et que vous la transformiez en produit monétaire, à ce moment-là, si vous le couvriez avec des dérivés et qu'une gestion du risque très maligne, on disait à l'époque que le résultat serait que la dette se retrouverait dans les mains de ceux qui étaient les plus aptes à la gérer. Et c'était pas seulement le secteur privé qui dit ça, mais de grandes autorités qui disaient que les banques centrales disaient que les banques seraient plus sécures, plus sûres de ce point de vue-là. Et, rétrospectivement, c'était de l'inconscience. C'était une énorme erreur. Mais c'était une erreur qui était affirmée par les grands économistes, par les grandes banques centrales, par les régulateurs à travers le monde. C'est le shadow banking, ou la titrisation, en fait. La titrisation n'a pas véritablement servi à quelque chose d'utile, parce que ça a créé... Vous savez, j'ai dit beaucoup de dégâts en disant que ça ne servait rien, ce genre de choses, cette titrisation. Mais les gens ont reçu des paiements énormes dans ces activités de trading pour des activités qui, non seulement on n'avait pas besoin, mais qui, finalement, ont créé du risque qui a aidé à déclencher la crise et la récession d'après 2008.
Le Brexit, c'est l'addition qui a été payée pour l'ensemble de ces erreurs.
Je crois que le Brexit, c'est un des phénomènes parmi beaucoup d'autres politiques que l'on voit à travers le monde, où il y a une réaction contre l'échec apparent de l'élite, un échec du capitalisme principalement à tenir ses promesses. Tout le monde sait que le capitalisme peut avoir des hauts et des bas selon les années. Tout le monde sait que le capitalisme provoque des inégalités. Mais la promesse du capitalisme, c'est que, disons, au cours d'une période, d'une décennie, pas sur une seule année, le niveau de prospérité augmentera. Et que même s'il y a des gens qui en gagnent plus que d'autres, tout le monde va y gagner quelque chose. Et ça, c'est ce qui s'est brisé dans cette décennie en Europe. En Europe, il n'y a eu aucun accroissement du PIB par tête dans le niveau de vie au cours des 10 dernières années. Et en remontant en plus dans le temps, le système augmente encore les inégalités. Donc même lorsqu'il y a une croissance, il y a des individus qui n'y prennent pas part. Et je crois que la conséquence de cela, que nous voyons aujourd'hui dans l'élection de Trump, qu'on le voit dans le Brexit,
merci les traders là encore, hein. Merci.
Et on le voit aussi dans l'élection présidentielle en France, qui produit du soutien pour les extrêmes.
L'ingéniosité financière délirante nous aura donc livré une crise majeure de la dette. Et le populisme. Chapeau, bravo.
Je crois que c'est vrai. Je ferai attention en disant que c'est les traders.
Oui, non, enfin, c'est... voilà.
La croissance de cette dette. Et faut être très clair là-dessus. Une partie de cette dette se produit lorsque la dette croît. Beaucoup de politiciens ont dit, mais c'est une bonne chose. Et en Amérique, il y avait des politiciens qui disaient, c'est bien, nous avons créé maintenant ces nouveaux instruments très complexes qui vont permettre aux pauvres qui n'auraient pas pu prendre une hypothèque, de prendre une hypothèque et d'avoir sa propre maison. Il y avait beaucoup de soutien pour qu'il y ait beaucoup plus de dettes hypothécaires. Et en partie, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une réaction aux inégalités croissantes. Il y avait de plus en plus d'inégalités dans la société, où les gens ne savaient pas comment le faire de façon, comment s'en occuper. Donc au moins, si on fournissait du crédit, disons, aux parties les plus pauvres de la population, eux pourraient emprunter de l'argent en dépit du fait que leur salaire n'augmentait pas. Mais ce jeu a pris fin en 2008. Mais ce n'était pas seulement les traders, c'était une politique, une erreur politique beaucoup plus large, et il faut véritablement y réfléchir.
Alors votre livre est très intéressant parce que il souligne qu'il y a encore potentiellement un certain nombre de bombes ici et là dans le système économique mondial, et donc autant de crises possibles. Mais votre livre appartient aussi à un genre très précis qui est le livre de banquier à qui vient la conscience une fois qu'il est parti à la retraite. Ça, c'est un genre très fécond dans l'édition.
Il y a
beaucoup de gens alors qui ont fait tourner le système, qui ont été banquiers, etc. Et puis, vient un moment de leur vie où, hop, la conscience leur arrive et ils disent, attention, ce qu'on a fait est mal et ça peut se reproduire. Alors, est-ce que vous faites partie de ces gens-là, de ces repentis qui ont agi d'une manière et qui, une fois qu'ils sont sortis des responsabilités, disent que tout cela était terrible?
Am I repenting?
C'est un livre de repentir, hein, quand même.
Well, it's a livre of recognizing a set of intellectual mistakes.
La reconnaissance d'un certain nombre d'erreurs intellectuelles.
Ça vous honore.
I was not a trader.
Je n'étais pas trader. Je n'étais pas directement impliqué dans ce type d'activité. Mais ce qui est vrai, c'est que je n'avais pas compris avant 2008. À quel point le système était instable. Je n'ai jamais été un véritable croyant de l'idéologie néolibérale et de la libéralisation totale. J'ai écrit un autre livre en 2001 où j'ai consacré un chapitre à la finance internationale. Est-ce que c'est un casino ou un moteur de croissance? Et je posais des questions à l'époque sur les dangers d'instruments super compliqués. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point ce problème était profond. Et en 2008, j'ai été surpris. Et pour le comprendre, il fallait que je revienne au cours d'économie que j'ai appris à Cambridge en 1970 et que je me pose des questions sur ce que faisaient les banques. Pourquoi est-ce qu'il y a de la dette dans notre économie? Est-ce que c'est une repentance? Bon, c'est l'acceptation du fait que moi et d'autres ont commis des erreurs intellectuelles. Et je voudrais vous dire très clairement, j'étais face à une commission du Parlement britannique à l'automne 2008. Le président de la commission a reconnu que je n'avais pris les rênes de la régulation qu'en septembre 20, le 20 septembre 2008. J'ai dit, je ne vais pas vous blâmer pour ce qui a été fait, mais si vous aviez été le régulateur 5 ans auparavant, est-ce que vous auriez commis les mêmes erreurs? J'ai dit, oui, je le crains. Donc, je ne prétends pas que j'avais la préscience de cette crise.
Alors moi, je trouve formidable que la conscience vienne après les événements. C'est très difficile parfois, de vous nous le disiez tout à l'heure, on ne sait pas quand un événement se déclenche, ce qui est en train de se passer. On va regarder les livres d'histoire, etc. Donc que la conscience vienne après les événements est tout à fait normal et envisageable. Mais est-ce que dans votre monde, il ne serait pas nécessaire d'enseigner les choses de manière à ce que on fasse les choses avec conscience avant les crises?
Je crois qu'à partir de l'analyse qui se trouve dans mon livre, il y a deux problèmes de politique publique. le premier problème, comment arrêter la survenance de ces crises? Comment est-ce qu'on empêche la croissance de la dette? Comment est-ce qu'on fait croître nos économies sans avoir trop de dettes? Et deuxième problème, c'est pareil, parce qu'on ne l'a pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec la dette qu'on a présentement? Sur la première question, ce que je suggère dans mon livre, c'est véritablement une proposition très radicale. J'étais impliqué entre 2008 et 2013 dans les débats au niveau international sur les nouveaux règlements que nous avons introduits pour que le système financier mondial soit plus sûr. J'étais le président d'un de ces commissions. Et moi, j'étais un faucon. J'ai dit qu'il faut des normes très dures, il faut beaucoup plus de liquidité et de capital. Et dans mon livre, je dis, si moi, j'étais un bon dictateur de l'économie, et je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, j'aurais été plus faucon encore. De façon, j'aurais augmenté ce que l'on exige de réserve de capital des banques. Mais dans un travail administratif, il faut être d'accord avec les autres. Il faut négocier avec les autres. Je peux dire que j'étais un faucon. Mais j'ai mis tout un jeu de propositions radicales pour régler ce problème. Et ce qu'il faut faire surtout, c'est nous assurer qu'il y ait des moyens de faire croître notre économie sans faire croître la dette encore plus rapidement. Parce que si on fait croître l'économie en faisant croître la dette encore plus rapidement, on arrivera finalement à un point où ça explose.
Merci Lord Adair Turner. Votre livre « Reprendre le contrôle de la dette » est publié aux éditions de l'Atelier. Merci à Michel Zlotowski pour la traduction simultanée des propos. Et tout de suite à 18h38 sur Inter, la revue de presse des correspondants.
12 del día, 9 minutos en Brasil.
Revue de presse internationale.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Ouaman.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Washington, Frédéric Arbonne, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous.
La revue de presse des correspondants d'Inter avant de filer à Moscou, rejoindre Claude Briot, direction Rome. Mathilde Imberti, en cette semaine de Pâques, Mathilde, la presse italienne n'a Dieu que pour le pape François.
Oui, le pape est omniprésent cette semaine dans la presse et pour plusieurs raisons. Semaine sainte oblige, tout d'abord, il accorde à La Repubblica une interview sur 2 pages aujourd'hui. Il s'explique sur son choix d'aller ce jeudi laver les pieds des détenus. « Je me sens proche d'eux », explique le pape François dans les colonnes du quotidien de centre-gauche. « Je me demande toujours pourquoi eux sont tombés et pourquoi pas moi ». Une semaine sainte qui a démarré dans le sang, en Égypte, double attentat contre les Coptes. Alors que le pape a prévu de se rendre au Caire à la fin du mois, allait-il maintenir son voyage? Le doute a été levé dès lundi dans El Corriere et dès la Sera, le premier quotidien italien, par Monseigneur Becciu, le numéro 3 du Vatican. Oui, le pape se rendra malgré l'état d'urgence, malgré les conditions de sécurité sur place en Égypte. Prônez le dialogue interreligieux. Enfin, le pape François, qui ne rencontrera probablement pas le puissant Donald Trump. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège confirme que le président américain n'a pas demandé à rencontrer le pape François. Alors que Donald Trump sera en mai en Italie pour le sommet du G7, ce serait une première, écrivent non seulement les vaticanistes italiens, mais aussi ceux du monde entier. Une première si un président américain qui se trouve en Italie ne passe pas par le Vatican.
Et ensuite, Mathilde, la confrontation Renzi-Berlusconi se déploie par presse interposée cette semaine.
Alors qu'il est, on ne sait pas bien si les deux hommes sont appelés à se défier ou à faire alliance pour gouverner le pays. La réforme de la loi électorale est au point mort et un système proportionnel se profile pour les prochaines élections en 2018. À la une de l'hebdomadaire Panorama, il y a Matteo Renzi, sous-titre « Le sauveur de la patrie ». Après ma sortie de la présidence du Conseil, je suis resté vivant et je suis plus fort que jamais, assure Matteo Renzi. Il est en campagne, Matteo Renzi, pour reconquérir la tête du Parti démocrate lors des primaires le 30 avril. Et puis, dans le même temps, à la une de l'Espresso surgit Silvio Berlusconi. Le revoilà, s'exclame le premier hebdomadaire d'Italie en une. Il n'a jamais réellement abandonné, selon l'Espresso qui assure, le caïman est de retour. Silvio Berlusconi, à 80 ans, devrait jouer un rôle déterminant dans la formation des futures alliances au Parlement.
Et Berlusconi-Renzi, dans un autre combat, ils ne sont pas d'accord sur un sujet extrêmement sérieux. J'ai nommé le menu de Pâques.
La querelle politique à propos des agneaux de Pâques, titre du Corriere della Sera ce matin. L'affaire part d'une vidéo diffusée par la Ligue animaliste d'Italie, dans laquelle Silvio Berlusconi caresse tendrement des agneaux, leur donne du lait au biberon. Faites comme lui, aidez-nous à mettre fin au massacre des agneaux, supplie face caméra la responsable de la Ligue. La vidéo a eu un franc succès sur les réseaux sociaux. La présidente de la Chambre des députés, qui n'est pas du même bord politique que Berlusconi pourtant, a elle aussi adopté deux bêtes et s'est engagée à devenir végétarienne d'ici la fin de la législature. Mais tout ce vacarme ne va pas du tout à Matteo Renzi, ça ne lui va pas du tout, écrit le Corriere. Moi, à Pâques, je mangerai de l'agneau, assure l'ancien président du Conseil florentin. C'est une tradition familiale et de préciser, il y a suffisamment d'animaux en politique, pas la peine d'en rajouter.
Mathilde Imberti à Rome, merci et bonsoir Claude Bruyot.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Moscou, à la une chez vous, Claude?
Alors, aussi bizarre que cela puisse nous apparaître, ce qui a le plus fait réagir les médias russes hier, au plus fort de la tension générée par cette première rencontre russo-américaine après les frappes de la semaine dernière, c'est la sortie courroucée vraiment de Sergueï Lavrov contre la presse américaine. Le ministre russe des Affaires étrangères n'était pas encore assis aux côtés de sa délégation, que nos confrères d'outre-Atlantique l'ont carrément assailli de questions, à un point tel que Sergueï Lavrov les a vertement vilipendés pour leur manque de savoir-être, ce dont se sont évidemment réjouis les médias de Moscou, beaucoup plus habitués, c'est vrai, à attendre qu'on leur donne la parole et qui finalement ne comprendront jamais ces collègues américains qui se croient toujours tout permis où qu'ils soient. Alors de cette petite histoire à la grande, il n'y a qu'un pas, franchi allègrement ce matin dans la presse russe avec une tonalité égale d'ailleurs, de RIA Novosti, une des principales agences russes, à Novaya Gazeta, quotidien indépendant. Le constat essentiel est le même après les échanges au sommet hier entre Lavrov, Poutine et Tillerson, même à un niveau de confiance très bas, le dialogue russo-américain s'est relancé, en partie d'ailleurs sur le dos, ou plutôt sur la tête de Bachar al-Assad. Tous les organes de presse russes constatant la profonde différence d'ailleurs entre Moscou et Washington sur le sort qui doit être réservé au numéro 1 syrien. Sur les autres aspects de la guerre en Syrie, Commerçante, du côté de la presse indépendante, considère, en dépit de 5 heures d'entretien, que la recherche de vraies solutions est remise à plus tard. Enfin, Rossiyskaya Gazeta, journal proche de Vladimir Poutine, retient lui que la Russie et les États-Unis vont reprendre ensemble leur lutte contre le terrorisme international. L'honneur est sauf.
Voilà. Et en dehors de la guerre en Syrie, est-ce qu'il y a eu, Claude, d'autres sujets analysés au lendemain de cette rencontre Lavrov-Poutine-Tillerson?
Oui, il y en a un peu d'ailleurs en forme de dégagement, dans les pages très suivies du site Lentaru, qui pose la question suivante. Que se passerait-il si les États-Unis venaient à frapper la Corée du Nord? Et la réponse de Lentaru, sur le mode ironique, fait référence à l'émotivité de Donald Trump et même de sa fille Ivanka, découvrant que des missiles nord-coréens pourraient atteindre New York. Au final, on comprend que nos confrères russes croient davantage à l'hypothèse de la destruction par l'armée américaine d'un tir d'essai ordonné par Pyongyang, car Lentaru en est convaincu, l'Amérique n'est pas prête à accepter une guerre avec la Corée du Nord.
Et l'autre actualité de la semaine chez vous en Russie, Claude, c'est le retour sur l'avant-scène médiatique de l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine. J'ai nommé Alexei Navalny, libéré après 15 jours de prison et qui se dit, Claude, déjà prêt à repartir au combat contre le Kremlin.
Absolument. Alors en deux mots, rappelez quand même que Navalny avait été condamné donc à 15 jours de détention pour ne pas avoir respecté une interdiction des autorités russes qui concernait la tenue de manifestations le 26 mars dans une dizaine de grandes villes du pays. D'ailleurs, ces démonstrations ont connu un certain succès. Elles étaient destinées à dénoncer la corruption à tous les étages du pouvoir. Alors c'est peut-être beaucoup dire que Navalny aimante la presse de son pays, mais il a une certaine pratique des réseaux sociaux et il parvient à faire parler de lui avec parfois les moindres détails qui ressortent. On a appris par exemple que c'est l'un de ses gardiens de la prison où il était détenu qui lui a payé son ticket de métro car l'intéressé n'avait plus avec lui ni argent ni téléphone portable en sortant et ça ne l'a pas empêché d'ailleurs quelques heures plus tard d'annoncer qu'il organiserait de grandes manifestations contre le régime de Vladimir Poutine un certain 12 juin prochain, jour de fête nationale dans toute la Russie.
Claude Bruyot en direct de Moscou pour France Inter. Merci.
7 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Nicolas.
Nous repartons en Turquie, Olivier. Le pays sera au centre de l'actualité internationale ce week-end.
Oui, l'enjeu du référendum de dimanche aura sans aucun doute des répercussions sur la nature des relations avec les autres pays dans la région. Mais c'est avant tout l'avenir du pays qui se joue dans ce vote. Conserver le régime parlementaire actuel ou transférer l'ensemble du pouvoir dans les mains d'un seul homme, le président Recep Tayyip Erdogan. Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes à Istanbul pour suivre la fin de cette campagne, Claude.
Oui, Istanbul qui disparaît littéralement sous les fanions, sous les banderoles. On est ici dans une municipalité AKP qui est acquise au président Erdogan. Erdogan qui a été, rappelez-vous, le maire de cette ville. Erdogan qui a mis tous les moyens, et ils sont énormes, pour mettre en avant le « oui ». À la télévision, où l'équité des temps de parole a été levée, il n'en a quasiment que pour lui. La presse indépendante, vous le savez, a été complètement muselée depuis le coup d'État de l'été dernier. La répression des opposants s'est abattue partout. Il y a eu des dizaines de milliers d'arrestations de fonctionnaires, de profs, de magistrats qui ont brutalement été suspendus de leurs fonctions parce qu'ils étaient opposés au président.
Et est-ce qu'on peut avoir malgré tout dans ce contexte une idée, Claude, de l'issue de ce référendum ?
C'est très serré, très incertain, mais l'écart se creuse avec un avantage pour le oui à environ 52%. Des sondages qui ne sont peut-être pas très fiables dans ce pays où la parole est extrêmement contrôlée. Le pays est divisé comme il l'a rarement été. Alors évidemment, on le sait, la Turquie est une terre de contraste avec un pied en Asie, l'autre en Europe, à la fois tourné vers le monde arabo-musulman et vers l'Occident. C'est aussi une société de caste où la croissance économique qui a accompagné les années de pouvoir de l'AKP a quand même beaucoup modifié la donne sociale du pays en permettant à des millions de Turcs d'origine populaire de rejoindre les classes moyennes et la société de consommation. Et tout cela, ça va peser dans le résultat, reconnaît l'analyste Senan Ulgen qui dirige le think tank EDAM.
Il y a un contexte idéologique dans tout ça, c'est-à-dire que Erdogan, de plus en plus, souhaite avancer une autre idéologie politique pour la Turquie, une idéologie qui est beaucoup plus liée au passé ottoman et aux mœurs islamiques de la Turquie, qui s'oppose à cet objectif républicain, donc plus l'Europe, plus laïcité, que par rapport à cette idéologie qui s'apparente plus du passé ottoman de la Turquie.
Alors ce passé ottoman, Claude, c'est vraiment la référence d'Erdogan qui parle souvent de restaurer cette grandeur turque. Tout tourne en fait autour de sa personnalité avant le vote de dimanche.
Oui, absolument. Erdogan, dont le portrait est vraiment ici partout. On a vraiment le sentiment, Olivier, d'un vote plébiscite autour de cet homme charismatique qui, en 14 ans, n'a jamais perdu une élection. Écoutez ce que dit de lui Emma Sinclair Webb. Elle est chef du bureau Turquie de l'organisation Human Rights Watch.
Avant, c'était une élite bourgeoise qui dirigeait la Turquie, qui dominait tout et qui laissait beaucoup de gens de côté. L'AKP a beaucoup joué sur le thème. On représente le petit peuple, les gens ordinaires. Ceux qui étaient exclus avant pensent désormais qu'ils comptent dans la société. Erdogan est un leader très charismatique. Il est exceptionnel quand il s'agit de manœuvrer contre ses ennemis politiques. Une des choses qu'il a bien réussi à mettre en place, c'est ce sentiment que si vous ne votez pas pour lui, vous perdrez tout ça.
On a tout de même du mal à comprendre pourquoi, Claude, les Turcs voteraient pour un renforcement des pouvoirs. Est-ce qu'ils n'ont pas peur d'une dérive ?
Alors une dérive, non, en tout cas pas pour ses partisans. Et ses partisans, ça va vraiment au-delà de l'aspect religieux, islamiste. Erdogan, on l'a vu, sait jouer sur les peurs. Et la Turquie a eu très peur l'été dernier avec la tentative de coup d'État. Elle a peur aujourd'hui avec tous ces attentats. Et l'idée de renforcer les pouvoirs du président, eh bien, c'est précisément d'éviter toute instabilité politique qui va compliquer davantage la situation. Il faut se souvenir qu'en 70 ans environ, la Turquie a connu près de 65 gouvernements différents. Et ça, ça pèse aussi, on nous le répète ici. À la terrasse d'un café sur la rive asiatique du Bosphore, nous avons retrouvé des supporters de l'AKP, parmi eux Elif, une jeune femme au voile vert assorti à ses yeux. Elle est furieuse contre la vision que les Occidentaux ont de ce référendum.
À ce propos, on est injuste envers Erdogan. Le terrorisme est une menace universelle, mais plus encore pour la Turquie, car nous sommes frontaliers de la Syrie. Daesh, le PKK, les YPG, Gulen, il y a tant d'organisations terroristes contre lesquelles on doit lutter en même temps.
En Turquie, 250 personnes ont été massacrées en une seule nuit lors de la tentative de coup d'État. On a attaqué la démocratie. Donc le critiquer de cette façon, c'est vraiment injuste.
Et cette colère que l'on sent, elle se sent aussi dans la campagne. Il y a eu des arrestations, des meetings perturbés, des stands attaqués, des réunions interdites. Les Turcs se méfient de plus en plus les uns des autres. La répression a vraiment renié les ailes d'une partie de la société qui a peur, qui se tait. On est bien loin du frémissement citoyen de Gezi. Et c'est peut-être une Turquie sur le point de basculer que l'on découvre aujourd'hui.
Merci à vous, Claude Guibal, envoyé spécial de la rédaction de France Inter à Istanbul.
Et direction l'Inde, Olivier, pour découvrir une nouvelle tendance dans le tourisme.
Le tourisme solidaire que l'on peut d'ores et déjà diviser en deux catégories. Le tourisme solidaire actif, où les voyageurs consacrent leurs vacances à aider les populations, option qui coûte souvent très cher. Puis il y a une autre option, celle qui consacre une partie de l'argent du voyage au développement d'un projet social comme la création d'une école ou d'un dispensaire. Des initiatives qui ont beaucoup de succès, notamment en Inde, où vous vous êtes rendu, Philippe Lefebvre. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce tourisme solidaire ou tourisme durable est-il toujours bien compris par les touristes, justement, français ?
Eh bien non, pas forcément. Témoin, ces touristes que j'ai rencontrés à l'heure du déjeuner à Jaipur, la capitale touristique du Rajasthan.
On ne peut pas avoir une attitude particulière. Même pour les enfants, ils font rien. Et nous, on ne peut rien faire non plus.
Les gens sont a priori sympathique, mais à part ça, c'est tout ce qu'on peut faire.
On consomme, c'est tout. On les regarde, ils nous regardent, mais voilà quoi, on est dans un monde parallèle un peu.
Et pourtant, pour Christian Orofino, l'un des créateurs de l'Observatoire géopolitique du tourisme, le tourisme solidaire, ça ne commence pas forcément avec de l'argent, mais avec des gestes tout simples de la part des touristes.
Ne pas regarder les gens à travers les carreaux d'un car, à travers les grilles d'un hôtel, mais vraiment descendre, et s'immerger, c'est le terme, dans cette population pour vraiment la comprendre, pour vraiment la découvrir dans tous les sens du terme.
Alors on sent à peine hein, oui. Une prise de conscience,
petite, mais
y a-t-il réellement des actions concrètes qui sont menées ?
Oui, alors pour en voir, je me suis rendu dans un minuscule village avec Thierry Wallard, c'est le directeur général de National Tours, c'est une entreprise qui fait voyager chaque année quelques milliers de Français en Inde. Rendez-vous était pris à l'école au moment où, comme chaque matin, les enfants chantent l'hymne national indien.
Alors là, on se trouve à Ashrol, village pour lequel nos clients et nos structures ont financé une école pour de jeunes enfants. Ils sont aujourd'hui à peu près 110, un tout petit peu moins, alors qu'ils étaient à peine 25 il y a 6 ans. Ils faisaient classe sous les arbres. Quand il pleuvait, ils rentraient chez eux. Aujourd'hui, les structures en dur permettent d'avoir une scolarité quasiment normale, des professeurs qui remplissent leur fonction à plein temps.
Et alors là, grosso modo, ça a été un budget de combien pour construire cette école ?
Un peu plus de 20 000 euros.
Et c'est pas cher, hein, 20 000 euros. Il n'y a pas que l'école, hein. Les enfants m'ont montré les sanitaires flambant neufs pour les filles qui jusqu'à présent étaient privées de sanitaires dans cette école et surtout la petite cantine scolaire. Et là, c'est plus important qu'il n'y paraît, m'a expliqué cet habitant qui reçoit régulièrement des touristes français.
En fait, ils mangent surtout pour les protéines. C'est ça, c'est plus important qu'ils sont lentilles, les légumes verts qui sont plus importants. Et comme ça, tous les enfants qui sont inscrits à l'école, ils sont mangés. Et c'est pour ça les parents, ils peuvent faire envoyer les enfants à l'école parce qu'ils ont bien nourri. Et comme ça, ça évite de envoyer les enfants au travail.
Et comment sont financés ces projets, Philippe ?
Eh bien, sur la base d'une vingtaine d'euros par séjour réservé par les touristes français, c'est prélevé sur le prix de vente final. Les touristes ne savent pas forcément, d'ailleurs, qu'ils participent à une opération de solidarité. Et le financement des projets se fait directement, sans intermédiaire, sans ONG. C'est ce que m'a expliqué Michel Salin, c'est l'un des principaux tour opérateurs français.
Nous avons une collaboration avec nos partenaires locaux, en leur demandant sur quel thème ils verraient justement ces opérations de tourisme solidaire se mettre en place. Et nous veillons bien sûr à ce que tous les distributions financières que nous faisons aillent directement au profit de ces opérations de tourisme solidaire.
Et le partenaire dont parle Michel Salin, c'est Arun Seth, un personnage haut en couleur, puisque c'est le Maharaja qui veille sur les habitants de la région et qui pilote les projets nés du tourisme solidaire. Et en matière de projets, il n'en manque pas.
J'ai envie d'ouvrir une école anglophone gratuite. Quand vous êtes dans la position comme Maharaja ou Raja ou là, ça veut dire que vous êtes pour le peuple. D'accord, il faut travailler pour le peuple. Et pour ça, j'ai envie de développer aussi l'amour de mon pays, qui faire quelque chose qui garde le souvenir. Bah, c'est pour karma, parce que si on ne fait pas karma, comment arrivera Nirvana?
Ça, à mon avis, le Nirvana, il va y arriver. Le seul souci, Olivier, c'est qu'on ne sait pas du tout si les autorités indiennes seront en mesure de prendre le relais quand cesseront les financements via le tourisme solidaire. À Ashrol, tout le monde veut y croire, mais rien n'est moins sûr.
Philippe Lefebvre du service Société France Inter, merci à vous.
Et merci à vous, Olivier Poujade.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
L'édito d'Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
La tension, Anthony, ne semble pas diminuer entre l'Espagne et la Grande-Bretagne à propos de Gibraltar.
Qui aurait imaginé que l'Espagne et la Grande-Bretagne, par campagne de presse interposée, se livrent à une guerre de mots, voire d'insultes, et ce pour un rocher de 6 km² où vivent 32 000 habitants et une colonie de singes. On sait que Gibraltar est un sujet sensible en Espagne, qui depuis 1713 et le traité d'Utrecht rêve de récupérer cette péninsule, comme elle a finalement récupéré l'île de Majorque, c'était en 1802, mais rien n'y a fait. L'endroit a longtemps été trop stratégique pour être rétrocédé. Gibraltar, c'est la porte de la Méditerranée, et en plus, l'endroit est littéralement imprenable, il est entouré d'eau, et puis sa partie montagneuse, il n'y a que ça d'ailleurs, permet de dominer toute la région, et donc de contrôler le trafic maritime. Un bijou qui, transformé en forteresse, a été particulièrement utile pendant la Seconde Guerre mondiale, et a causé pas mal de maux de tête à la marine du Reich. L'Espagne franquiste, qui a bien tenté le blocus complet, hein, compté de 1969, mais décidément, rien n'y a fait.
Et la population s'est exprimée par deux fois en faveur de la Grande-Bretagne.
En 1967 et en 2002, et à chaque fois, les Gibraltariens ont répondu à 98% qu'ils voulaient demeurer britanniques. D'ailleurs, pourquoi changer de statut depuis l'entrée de l'Espagne dans l'Union Européenne? Le blocus a été levé, on peut donc librement entrer et sortir du territoire. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de Gibraltariens. Ils travaillent dans la colonie et habitent côté espagnol, où tout est tellement moins cher, Nicolas. C'est le cas du premier ministre de Gibraltar, hein, Fabien Picardo, qui possède une luxueuse villa en Espagne, dans le quartier chic de San Roque. Et puis en plus, il ne paye aucun impôt espagnol, parce que Gibraltar est un paradis fiscal, mais c'est un paradis fiscal au carré pour ses résidents. Aucune information n'est jamais transmise. C'est dire combien le Brexit est une catastrophe pour les Llanitos, comme on appelle les Gibraltariens. Les Espagnols n'avaient accepté en fait d'en rabattre sur Gibraltar que parce que la Grande-Bretagne en avait fait une condition sine qua non de l'adhésion de l'Espagne à la communauté européenne.
Et aujourd'hui, les Espagnols se vengent d'une certaine manière.
Exactement. Vous, Britanniques, vous avez fait plier il y a 30 ans. C'est maintenant à notre tour de vous faire, à nous de vous faire souffrir si vous voulez sortir du club. C'est de bonne guerre, en somme, même si c'est un peu mesquin. C'est un peu mesquin pour plusieurs raisons. A priori, vu de l'extérieur, il n'y a pas de raison qu'un pays d'Europe possède en 2017 une colonie, parce que c'est ça, dans un autre pays d'Europe. Sauf que Pacta sunt servanda, un traité doit être observé. Or, le fameux traité d'Utrecht de 1713, qui par ailleurs a mis un Français sur le trône d'Espagne, en l'occurrence le petit-fils de Louis XIV, donc Camembert les Gaulois. Le traité d'Utrecht, donc, précise que Gibraltar est cédé à perpétuité à la Grande-Bretagne. C'est une erreur que n'ont pas faite les Chinois, qui ont signé le même genre de traité avec la Grande-Bretagne un siècle et demi plus tard, mais n'ont cédé eux Hong Kong que pour 99 ans, pas une minute de plus. Et puis il y a une autre raison qui devrait calmer les Espagnols tout de même. À la minute où la Grande-Bretagne restituerait Gibraltar à l'Espagne, le Maroc exigerait, probablement manu militari, la restitution des deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, qui se trouvent de l'autre côté du détroit de Gibraltar, justement. Alors, quelle est la leçon de cette affaire, au fond? Eh bien, que le nationalisme, c'est vraiment la guerre, à commencer parce qu'on trouve toujours plus nationaliste, ou au moins aussi déterminé que soi. Non seulement c'est la guerre, mais en plus, Nicolas, c'est la défaite. Celle de la Serbie, qui a perdu le Kosovo, de l'Espagne, donc, qui risque de perdre la Catalogne, en passant par la Grande-Bretagne, qui voit l'Écosse tout faire pour s'en séparer. Et c'est de cela que nous préserve l'Europe, et il ne faut pas l'oublier.
Anthony Bélanger, merci. À 19h20, nouveau volet de la campagne invisible que l'on scrute dans le téléphone sonne sur ces sujets majeurs qui ne suscitent pourtant pas de débat entre les candidats. Ce soir, l'environnement et l'écologie, totalement absents. Pas un mot lors des deux grandes émissions de télévision ayant rassemblé les prétendants à l'Élysée. Là encore, les programmes des uns et des autres sont nourris, parfois très ambitieux, mais le sujet en lui-même, après la COP21, n'est plus l'objet d'un débat public. Intervenez 01 45 24 7000.